Bible de l'humanité, 1. L'Inde, chapitre 4, primitive famille indienne, le premier culte. Nous vivons de lumière, et notre légitime ancêtre, c'est le peuple de la lumière, celui des Aryens, qui, d'un côté vers l'Inde, de l'autre vers la Perse, la Grèce et Rome, dans les idées, les langues, les arts, les dieux, a marqué sa trace éclatante comme d'une longue échappée d'étoiles. Heureux génie, fécond, que rien n'a fait pâlir. Il guide encore le monde aux clartés de sa voie lactée. Le point de départ est très simple. Fort peu de merveilleux. Nul miracle qu'une précocité singulière de douceur et de bon sens. Quand on a supposé que l'homme débutait par l'absurde, par la folle imagination, on ne sentait donc pas qu'en ces temps de pressante réalité, il eût péri certainement. Il a duré par la sagesse. Que lisons-nous dans la Genèse vénérable des Aryas? Dans les hymnes de leur Rig Veda, incontestablement le premier monument du monde. Deux personnes unies, l'homme, la femme, d'un élan commun remercient la lumière, chantent ensemble un hymne à Agni, Ignis, le feu. Merci pour la lumière du jour naissant, pour l'aurore désirée qui finit les inquiétudes, met fin aux terreurs de la nuit. Merci pour le foyer, pour Agni, le bon compagnon qui leur égaie l'hiver, fait sourire la maison. Agni le nourricier, Agni le doux témoin de la vie intérieure. Juste reconnaissance, si l'on eût eu le feu dans ces temps, qu'eût été la vie? Combien misérable, dénuée, incertaine, sans le feu, rien. Avec lui, tout. Le feu, la nuit, fait fuir les bêtes, les rôdeurs des ténèbres. L'hyène et le chacal n'aiment pas les lueurs du foyer. Le lion même s'éloigne en grondant. Mais les feux du matin, la flamboyante aurore, mettent décidément en route ces sinistres myopes. Ils ont en horreur le soleil. Dans nos villes bien éclairées, dans nos maisons fermées et garanties, nous n'avons plus le sens de cette situation. Qui n'a eu pourtant en voyage quelques nuits à passer en lieu suspect dans quelques villas solitaires de pays malfamés? Le plus brave, s'il parle franchement, dira qu'il ne fut pas fâché de voir le jour. C'était bien autre chose alors. L'homme n'avait guère d'armes que la massue, ou tout au plus, la grosse et courte épée qu'on voit aux monuments assyriens. C'est de tout près, nez à nez, qu'il fallait poignarder le lion. Il abondait alors, et même au pays de froid hiver comme la Grèce, à plus forte raison en Bactriane et Sogdiane, où vivaient nos Aryas. Rare aujourd'hui en ces contrées, le chat monstrueux, lion ou tigre, abaissé de taille, comme le chien son ennemi. Sous la garde d'un chien terrible, dans la maison bien ou mal close, la famille, hommes et animaux, écoutait plus d'une fois la nuit les redoutables miaulements. La vache émue ne tenait pas en place, l'âne si fin d'Orient dressait son oreille mobile et aspirait les bruits. C'est lui qui, le premier, nous dit le Rig Veda, sentant le lion parti, flairait le matin, disait l'aube. On se hasardait à sortir. En tête, le gigantesque chien, aimé et caressé, l'homme ensuite avec les bestiaux, la femme et les petits-enfants, tous heureux, gens et bêtes, et les plantes aussi rajeunies. L'oiseau, ayant tiré sa tête de dessous l'aile, préludait sur la branche, semblait charmé de vivre. On s'unissait à lui pour bénir la lumière. On chantait, attendri, Merci encore un jour. Et nous autres, leurs fils lointains, à travers des milliers d'années, nous ne sommes guère moins touchés en lisant aujourd'hui ces vénérables enfances du genre humain, ces touchantes pensées où ils avouent simplement, naïvement, leur terreur trop fondée, leur joie si naturelle, leur sentiment de gratitude. L'inquiétude m'a saisi, dit l'homme, comme le loup saute à la gorge du cerf altéré qui vient boire. Arrive donc, lumière, et rend la forme aux choses, éclaircit la pâleur sinistre que je vois là-bas. Il ajoute ce mot pénétrant. Les aurores seules nous rendent le regard lucide en nous-mêmes. La religion du foyer ne serait jamais née dans le midi. Elle naquit au nord. On n'en peut guère douter quand on voit l'homme dans ses vœux pour une longue vie désirer cent hivers. On sent bien le climat sévère des hauts plateaux d'Asie dans les tendresses, les caresses qu'on fait au feu, au bon ami Agni. On parle aussi d'une manière sentie de la fine brebis du Kandahar aux laines chaudes et délicates. Dans les hymnes du mariage, où la femme choisit son époux, on lui fait dire avec une grâce de voluptueuse innocence « Je suis faible, je vais à toi, sois bon pour ma faiblesse, je serai toujours Romasa, la douce brebis des Gandharas, la soyeuse brebis qui vient chez toi te réchauffer. » Dans ce monde des pasteurs, la femme n'a nullement la vie serve qu'elle mène dans celui de chasse et de guerre. Elle est si nécessaire aux petits arts d'alors qu'elle est absolument égale à l'homme et même est appelée de son vrai nom la dame ou maîtresse de maison. Ce mot dame, bien plus ancien que le sanskrit brahmanique, l'est même plus que le sanskrit védique qu'il a pris d'une langue aujourd'hui perdue. Mais voici le plus fort. Dans le très beau rituel du mariage, la finale spécifie le haut privilège de la femme, propre à la seule femme du Nord qui garde tard ses énergies. Puisse-t-elle avoir 10 enfants et son mari le 11e? Mot admirable et d'immense portée qu'un vif élan de joie tire du cœur prophétique. C'est le but, en effet, nous l'avons dit ailleurs, que la femme, d'abord enfant de son mari, plus tard sa sœur, soit à la fin sa mère. Longtemps, longtemps après, on tombera dans la basse Inde. La femme mariée à 8 ans, à 10 ans, ne sera qu'un petit enfant que le mari doit former. Alors, par un triste changement, l'aide du sacrifice sera un jeune anachorète, un novice, un disciple. Mais ici, dans la vie primitive de la Haute-Asie, où la femme est une personne, où elle n'est mariée que déjà grande et raisonnable, c'est elle, la dame de maison, qui aide au culte et qui, autant au moins que l'homme, a part dans le pontificat. Elle sait Agni en ses 3 formes, en ses 3 langues, en ses 3 aliments. Elle connaît le bois mâle et femelle qui sera son père et sa mère. Elle fait le beurre et le soma, la liqueur esprit qui lui plaise. Soma est l'ami de la joie, de la génération, dit l'Inde d'aujourd'hui encore, autant que le noir café, riche d'idées et pauvre d'amour. Par le soma, par le gâteau sacré, par tout ce qui soutient, égaie ou sanctifie la vie, la femme fait déjà pressentir ce que sera dans l'avenir la reine mage, Circé l'enchanteresse, la puissante Médée, moins le crime. Dans les hymnes d'évocation que l'on adresse au feu, on lui rappelle de 1000 façons son profond rapport à la femme. « Tout est prêt, cher Agni. Nous avons paré ton autel comme l'épouse orne son bien-aimé. Cher Agni, tu reposes encore comme l'enfant à naître au sein de la femme enceinte. » ils avaient très bien deviné qu'il y a des plantes mâles et femelles, mais ne sachant les distinguer, par une idée gracieuse de féminine poésie, on supposait que l'épouse végétale était la plante qui s'appuyait, en enlaçait une autre, vivait volontiers dans son ombre. Voilà le père, la mère du feu. Dans sa mère, on creusait une petite fossette et l'on y faisait tourner l'autre bois. Procédé patient. Des peuples plus sauvages n'obtiennent le feu que du hasard, de la foudre qui tombe et de l'incendie des forêts. Les races impétueuses des brûlantes contrées l'exigent violemment du caillou, font sauter du silex la vive et fuyante étincelle, bientôt perdue, et qui le plus souvent ne laisse qu'étonnement et obscurité. Revenons. En tournant, l'homme obtenait une petite fumée, puis un imperceptible feu qui se serait évanoui. Mais la femme venait au secours. Elle accueillait le nouveau-né, le suscitait d'un petit aliment de feuilles. Elle retenait son souffle. Les hymnes ici témoignent d'une chose bien antique, de l'extrême peur qu'on a dans les premiers temps de laisser éteindre le feu, de ne pouvoir sauver ce sauveur de la vie. La femme seule y parvenait. C'est pour elle comme un enfant, un tout petit enfant qu'elle aime. Sa bonne nourrice le soutient, le nourrit de son lait concentré, le beurre. Et lui, reconnaissant, se dresse. Dès qu'il est fort et peut manger, on le régale d'orge et de gâteaux sacrés. À cette hostie solide, on joint l'hostie liquide. L'homme prend de la main de la femme le vin d'Asie, le somma qu'elle a fait, le verse dans Agni. Celui-ci se cabre, pétille, il grandit bleuâtre à la voûte. Tout est transfiguré, la maison sourit et frémit. Mystère divin, les coins les plus obscurs ont aussi leur part de la fête et même après longtemps rougissent de reflets fantastiques. Mais tout d'abord, à l'instant du jet même et de la vive ascension, une voix aussi est montée, une même voix de deux cœurs unis, des paroles émues et tendres. Élan naïf et court, suivi d'un grand silence. Ce qui est dit, restera la voix sainte que rien n'abolira. Nous la lisons toujours, fraîche encore après 6000 ans. Et au moment où, sans se concerter, d'un même cœur ensemble ils ont dit ce mot qui ne périra plus, ils se regardent à la lueur divine et se voient tous les deux divins. Lui, Deva, elle, Devi. Dans cette simplicité extrême qu'on dirait enfantine, apparaît le vrai sacrement de l'amour harmonique, la haute idée du mariage. Le mortel a fait l'immortel. Nous engendrâmes Agni, les 10 frères, les 10 doigts, entremêlés dans la prière, ont inauguré sa naissance, l'ont proclamé notre enfant mâle. C'est le caractère grandiose de cette race, la première du monde, qu'en adorant, toujours elle sait bien qu'elle a fait les dieux. Dans l'hymne le plus enthousiaste, le phénomène admiré qui s'y voit sous des traits divins est en même temps si bien décrit, suivi, analysé, qu'on retrouve aisément sa naissance, sa vie progressive. Bien plus, tous ces passages restent marqués dans une langue transparente où les noms de Dieu ne sont réellement que des noms appellatifs, le fort, le brillant, le pénétrant, etc. Donc, nulle superstition. Si le Dieu s'oubliait, devenait un tyran, voulait enténébrer l'imagination de terreur servile, l'esprit, armé d'une telle langue, lui retrouvant ses origines, dirait « Qui t'a créé ? C'est moi, noble culte, de haute et fière conception, qui, en donnant tout, garde tout. » Les dieux bénis, aimés, ne s'émancipent pas tout à fait de leur créateur, l'homme. Il reste dans le cercle de la vie générale. si l'homme a besoin d'eux, ils ont besoin de lui. Ils l'écoutent, descendent à sa voix. Son hymne du matin loue le soleil, mais de plus l'évoque et l'attire. C'est une puissante incantation, et il y obéit. Quand on allume Agni au bord des fleuves, au confluent sacré, lorsque la main des femmes a fait autour de lui un tapis d'herbe pour que les dieux viennent s'asseoir, ils n'ont garde de ne pas venir. Ils obéissent à l'hymne. Ils viennent amicalement prendre part aux libations du beurre sacré du pétillant soma. Ils ont donné les pluies fécondes qui ont reverdi la prairie. On leur donne en retour ce qu'on a de meilleur. Le ciel nourrit la terre nourrit le ciel. Est-ce à dire que par cette dépendance mutuelle, les dieux soient abaissés? Ils sont aimés bien plus. Dans cette religion souriante, d'amitié sans terreur, ils se mêlent familièrement aux actes de la vie humaine, les élèvent et les divinisent. La tendre épouse, en préparant pour l'homme le pain sacré qui le refait le soir, et de moitié avec Agni. Les soins qu'elle a d'Agni, il sait les reconnaître. Il est l'amant des filles et l'époux de la femme. Il sanctifie, il illumine l'heureux moment de la fécondité. Qu'il brûle en l'homme ou qu'il brille au foyer, qu'au ciel, d'un trait de feu, il féconde la grande épouse, Agni sous ses formes diverses, de plus en plus, se retrouve le même. On le sent à la flamme inventive d'où part l'hymne ailé. On le sent dans l'amour tout autant que dans le soleil. On ne va pas manquer de dire « tout cela n'est encore qu'un pur naturalisme et sans portée morale, vieux distinguo de la vieille critique. De toute religion fleurit le fruit divin, l'éveil de la conscience. » Agni, dans les très anciens hymnes, est pris visiblement pour le pur, dont on doit imiter la pureté en écartant de soi la souillure physique et morale. Si celle-ci n'est pas bien définie encore, l'âme s'inquiète, interroge Agni. Agni, que me reproches-tu? Et quelle est mon offense? Pourquoi en parles-tu à l'eau, à la lumière? Et cette âme troublée énumère toutes les forces de la nature devant lesquelles l'accuse le pur, l'irréprochable Agni. Ces tendances vers l'épuration amenèrent la réforme qu'on personnifie sous le nom de Zoroastre. Les tribus agricoles de caractère austère s'attachèrent au dogme héroïque du travail dans la pureté, à l'invisible Agni, ordonnateur du monde. Les tribus pastorales plus imaginatives étendirent, agrandirent l'Agni visible à la mesure du ciel, du soleil, des nuées, de tout ce qui se voit. Fêté et célébré toujours sous son nom primitif, il devint en même temps Indra, dieu des orages qui arrose, refont la prairie. Cet élan d'imagination coïncida, ce semble, avec le changement de séjour, de climat, avec l'émigration des tribus pastorales qui descendaient vers l'est et le midi. Lorsqu'on passe Kaboul, on est saisi d'étonnement en voyant tout à coup dans son immensité, sa nouveauté, le paysage indien. Là se fit, je n'en fais pas doute, cette transformation d'Agni, l'explosion du puissant Indra. C'est moins le soleil en lui-même que le dieu vainqueur des nuées. Ce pays de grandes rivières, mais inégales, torrentueuses, a de cruelles sécheresses, suivies de grands orages, nature de combat, de contraste, de guerre atmosphérique. Pour la faire, on donna généreusement en Indra un char, un arc et des coursiers. Ce char qu'on entend roule et gronde. Indra, vainqueur, fécondateur, tantôt presse la terre haletante, lui fait l'amour à coups de foudre, Tantôt, voyant sur la montagne le noir dragon de la nue envieuse qui garde et refuse l'eau, il perce le monstre de flèches, le force déchiré de verser la pluie de ses flancs. Innocente ornementation très transparente, fort peu chargée de mythes ou de symboles. L'art unique était la parole, le chant fidèlement conservé, l'hymne saint et sacré des dieux. De la Bactriane à l'Indus, puis vers le Gange, en 10 siècles peut-être, ce peuple s'avance en chantant. À chaque pas, un chant. Et l'ensemble est le Rig Veda. La borne fut l'entrée de l'Indostan. Le peuple voyageur se trouva en présence de 3 infinis, dont un seul suffisait pour le troubler profondément. L'infini de la mer au sud, un je ne sais quel fleuve dont on ne voit pas les rivages, le miroir enflammé où chaque soir se plonge, flamboyant, le soleil indien. Au nord, un cercle de géants, toutes les têtes de l'Himalaya, exaucées de 30 montagnes, portant tous les climats et tous les végétaux, couronnées de ces neiges sur un noir sourcil d'arbres sombres. Les jungles immenses des tigres et des serpents s'étendent aux pieds. Le Gange, dans sa pompe, va coulant vers l'aurore avec ses forêts colossales, tout un monde vivant qui s'abreuve à ses eaux. Enfin, ce fut le plus terrible, l'attraction brûlante de la fournaise indostanique, les caresses et l'invitation d'une trop charmante nature, d'une race douce et de peu de défense, énormément nombreuse, la race jaune, 100 ou 200 millions d'esclaves qui admiraient, aimaient la race blanche, l'aimaient si bien qu'elle y pouvait périr. La résistance des Aryas, une si haute victoire de l'esprit, est un des plus grands faits moraux qui se soient passés sur la terre. Ils trouvèrent leur statut dans la barrière des castes. Elles se formèrent d'elles-mêmes sur une base fort raisonnable en ce climat, base physiologique et d'histoire naturelle. Premièrement, l'horreur du régime sanglant, l'idée que la viande alourdit et souille, rend immonde et malodorant. Le mangeur de chair et de sang leur paraît sentir le cadavre. Ajoutez que la viande est bien moins nécessaire dans un pays où les fruits de la terre, mûris, cuits en perfection par ce puissant soleil, contiennent des sucs admirables, très substantiellement nourrissants. L'Inde semble un rêve où tout fond, fuit, coule et disparaît, se transforme et revient. Mais autre, jeu terrible de la nature qui rit de la vie, de la mort. Non moins terrible fut l'effort par lequel le génie humain se dressa à l'encontre, par une immense poésie, une législation violente et qui put sembler tyrannique, on créa une nature d'invention et de volonté pour intimider l'autre, la conjurer, la désarmer. Les sobres, les penseurs, fiers gardiens du génie indien, se constituèrent un peuple à part par l'abstinence absolue de la viande et des spiritueux. C'est le titre élevé et mérité du brahmana. La caste même des guerriers, qui use quelque peu de la viande, ne peut toucher aux liqueurs fermentées qu'en subissant de cruelles purifications. Enfin, par un très bel effort, la législation brahmanique essaya de maintenir dans l'amour et le mariage le haut idéal des Védas, la pureté monogamique, l'austère mariage de la blanche, fière et peu complaisante à la vie du sérail. Elle est libre d'abord. Le mariage n'est pas une vente, comme chez tant d'autres peuples. Cette vente d'une âme est un crime, un objet d'horreur pour la loi de Manu. La vraie formule du mariage, que nulle société ne dépassera dans l'avenir, est trouvée et posée. L'homme n'est homme qu'autant qu'il est triple, c'est-à-dire homme, femme, enfant. Selon les Védas, la loi et les sacrées ordonnances, selon l'usage populaire, l'épouse, c'est la moitié du corps du mari, prenant une part égale aux actes purs et impurs, à ce point que toute bonne œuvre de l'un des deux profite à l'autre. L'homme saint a ce bonheur de sauver celle qu'il aime par sa sainteté. L'égalité des deux sexes, difficile en pratique pour cette race et sous ce climat, est du moins marquée au ciel et manifestée dans le temple. Elle éclate sur l'autel. Partout, à côté des dieux, siègent et règnent les femmes des dieux. La mère, ce mot sacré, la mère, est si fort sur le cœur de l'Inde qu'il semble lui faire perdre de vue toute hiérarchie religieuse. L'homme, qui pourtant seul fait les prières, ce pontife domestique, se trouve au-dessous de la femme. La mère vaut plus que 1000 pères, le champ plus que la semence. La loi ne demande pas mieux que de suivre l'idéal, de constituer la femme associée de son mari. Elle voudrait lui donner la royauté domestique. La femme, c'est la maison. Une demeure où manque la femme ne peut s'appeler une maison. Et ceci n'est pas un vain mot. La loi lui en remet réellement l'administration, la recette et la dépense. Concession énorme, décisive. Si la femme était tant soit peu énergique, elle serait par cela seule et l'égale de son mari et la maîtresse de maison, autant que sous les Védas. Mais la nature permet-elle que l'Inde, ce grand prophète, puisse accomplir elle-même ce qu'elle enseigne au genre humain? Non, la tyrannie du climat ne permettra nullement que la réalité réponde à la perfection rêvée. La femme est nubile à 8 ans. L'homme de 30 ans n'épousera une femme de 12. L'homme de 24 ans, une femme de 8. Ce seul texte va changer tout. Quelque égalité que la loi veuille mettre entre les époux, cette petite femme ne sera que la fille de son mari. Je ne fais point l'histoire de l'Inde et je ne raconterai pas comment la loi brahmanique, qui fut d'abord son salut, devint peu à peu son fléau. Cela n'est pas particulier à cette loi, à cette contrée. C'est l'histoire commune des religions. Nous la retrouvons la même pour la Perse et pour l'Égypte. Née d'abord d'une cause vitale et presque toujours d'un vrai besoin du cœur, la religion prend plus tard consistance en se formulant dans une loi et un sacerdoce. Mais cette loi va se chargeant de prescriptions tracassières, vexatoires. Ce sacerdoce devient tyrannique et stérile. C'est comme ces verdoyants îlots des mers du Sud qui, peu à peu encombrés de coraux et de coquilles, disparaissent sous cette végétation de pierre et n'offrent plus qu'une masse calcaire où rien ne viendra jamais. Dans l'Inde, nul ouvrage historique, mais deux légendes fort graves nous expliquent très clairement la lutte des Brahmes et des guerriers. Les premiers vainquirent d'abord et, si on veut les en croire, ils durent leur victoire à un vaillant Brahme, Parasurama, Rama à la hache, une incarnation de Vishnu, qui aurait fait un immense massacre des guerriers. Ceux-ci, en se soumettant à l'autorité spirituelle des Brahmes, n'en restèrent pas moins puissants, rois ou rajas du pays. Leurs bardes ou poètes de cour, comme ils en ont encore aujourd'hui chez les Sikhs, opposèrent aux Brahmes une légende rivale, supposant que 1000 ans, 2000 ans après le Rama brahmanique, Vishnu s'était incarné dans un guerrier, un fils de roi, du même nom de Rama. Celui-ci, de caste guerrière mais d'esprit pacifique et doux, est l'idéal complet de l'Inde, le héros du Ramayana.